Ce que Clotilde voulait vous dire, c'est que l'évangile d'aujourd'hui s'adresse à nous. Ben, s'adresse à nous, parce qu'il a été écrit pour nous. Mais les aveugles, le Seigneur guérit deux aveugles, mais c'est nous qui sommes visés. Il est guéri réellement. Mais en même temps, dans l'évangile, tout ce qui arrive, c'est un signe. Un signe pour les hommes, ça a une actualité, je vous le dis souvent parce que c'est fondamental. Parce que c'est nous qui sommes aveugles. Nous sommes aveugles parce que nous voyons, nous regardons plus exactement les choses d'une manière purement humaine, d'une manière scientifique, psychologique, physiologique, suivant les lois ou les habitudes de ce monde que par ailleurs on appelle le monde déchu, qui n'est un monde que provisoire. Et quand le Seigneur guérit les deux aveugles de leur cécité, il se montre par là comme le recréateur, c'est toujours le même, comme le recréateur. Il recrée notre nature et il nous donne la faculté de revoir, de voir de nouveau, de voir la réalité. Et si nous voulons voir la réalité, il faut que nous regardions. Donc il faut d'abord commencer par nous désolidariser. Il faut commencer par avoir conscience que ce monde immédiatement compréhensible en partie par notre intelligence ou par nos sens ou par notre réflexion n'est que l'envers des choses, mais que l'endroit des choses nous est encore caché si on ne veut pas le voir. Et notre guérison dont nous avons reçu les prémices, les germes au moment de notre baptême, chrismation, et que nous alimentons par notre communion, nous permet de nous hisser avec la force du Saint-Esprit à un autre degré de la compréhension, donc de la vision. Nous sommes appelés à revoir, nous sommes appelés et c'est ça notre vocation, la vocation de tout homme, mais à plus forte raison des chrétiens, nous sommes appelés à voir une autre dimension de la réalité. Par exemple, pour nous, la mort n'est pas une catastrophe. La mort nous est non seulement elle est naturelle, mais la mort n'est qu'un passage, le passage pour la résurrection. Et notre manière de nous présenter comme des revoyants, c'est de nous réjouir, même s'il y a une séparation affectivement douloureuse, bien sûr, mais quand même de nous réjouir au fond de notre cœur, de voir ceux qui partent dans le royaume des cieux, parce que justement ils vont dans le royaume des cieux. Ceci dit en passant, si vous voulez avoir une petite pensée pour Mamie Simone, c'est aujourd'hui son 10e anniversaire. Bref, c'est pas pour elle que je voulais plaider, c'est pour tout, pour tous. Mais il faut apprendre justement à voir les choses autrement. Et relisez cet évangile et voyez comment que chacun revoit comment il est aveugle. On est aveugle lorsque l'on voit les autres avec leurs défauts, avec leurs manies, avec éventuellement leur seul caractère. Je ne vise personne, c'est pas parce que je vous regarde que je vous vise. Hein. Mais ça, c'est notre manière déchue. Et c'est nous qui nous condamnons dans ce cas-là. C'est nous qui choisissons de nous mettre à gauche de notre juge et non pas de venir à droite pour aller dans le royaume des cieux. De même, la deuxième partie de ces passage de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, c'est la guérison d'un muet. Là aussi, nous sommes muets. Pas toujours, Julie. Nous sommes muets parce que la plupart du temps, lorsque nous partons pourquoi ? Pour des bricoles, pour de la logique, pour nous parlons pour bavarder, nous parlons pour décrire ce monde, pour nous repaître de ce monde. Mais ça c'est pas de la voix, ça c'est je sais pas comment vous appelez ça, c'est du blabla. Et l'Esprit Saint, le Seigneur est venu sur terre pour nous apprendre à reparler, pour nous apprendre à utiliser la bouche de notre âme pour chanter la gloire de Dieu. Et nous sommes guéris de notre mutisme lorsque nous rendons gloire à Dieu, lorsque nous pardonnons les fautes qui nous ont été faites, lorsque nous disons ou pensons, parce que la parole n'est pas seulement celle qui sort de la bouche, mais celle qui sort du cœur. Lorsque nous pensons du bien des autres, lorsque nous pardonnons, c'est à ce moment-là que nous parlons véritablement. Donc, la mission qui nous est donnée, c'est d'apprendre à revoir et apprendre à nous apprendre à parler. Ces deux passages de l'Évangile nous préparent l'envoi en mission des apôtres, des disciples qui vont aller en mission et qui vont se rendre compte que les démons leur obéissaient, qu'ils chassaient les démons, qu'ils guérissaient les malades, etc., au nom du Christ. Et effectivement, si nous voyons bien et si nous parlons clair, nous guérissons le monde. Ça, c'est notre vocation. Nous parlons bien lorsque nous chantons, lorsque vous chantez les offices, même s'il y a un couac, ça c'est pas mal chanté, ça, à partir du moment où notre prière est une prière vraie. Lorsque nous prions avec ferveur, non pas avec émotion, mais lorsque nous prions pour nous attacher à Dieu, pour faire sa volonté. Ça, c'est de la parole qui nous est redonnée. Donc, relisons cet évangile-là. Il est facile à lire, il est rapide à lire, j'allais dire. Ce passage-là, il n'y a pas beaucoup de secrets derrière, si ce n'est que d'apprendre à le relire, apprendre à le voir d'une autre manière. C'est pas simplement des guérisons qui ont eu lieu pour montrer que le Seigneur est capable de faire des choses que les autres hommes ne sont pas capables de faire. Il y a aussi ça, mais ça c'est tout à fait accessoire, c'est secondaire. Ce qui est fondamental, c'est cette recréation que le Seigneur suscite par sa venue dans le monde en s'incarnant de manière à ce que nous soyons ce qu'il est, de manière à ce que nous parlions en son nom, que nous parlions, il est le Verbe de Dieu, il est la parole de Dieu, et nous aussi nous devons devenir parole de Dieu. Et la parole de Dieu se manifeste à partir du moment où soi-même on a une vision juste, claire, j'allais dire une vision théologique n'est pas tout à fait juste, parce que j'ai une vision théologique, ça voudrait dire presque quelque chose, une vision intellectuelle. Il ne s'agit pas de vision intellectuelle, mais d'une vision, plus exactement, mais ça va vous faire peur, à partir du moment où on a une vision mystique, c'est-à-dire nous intégrant, nous faisant deviner chacun à notre manière, chacun à notre degré, les mystères de l'union des hommes et de Dieu. S'oppose à ça notre intérêt pour les choses humaines, notre intérêt exclusif. Il est utile que vous sachiez que il est utile que l'on sache que telle nourriture est bonne et que telle autre n'est pas bonne. Donc c'est normal de connaître aussi d'autres choses. Mais pas mettre notre énergie dans ces connaissances-là qui n'amènent rien. Mais de découvrir, d'avoir la volonté de découvrir l'autre royaume, d'avoir un intérêt non pour ce monde mais pour l'autre monde. Souvent, nous pervertissons notre foi et l'Église en la mettant à notre service, comme si l'Église ou les choses spirituelles avaient pour but d'améliorer notre condition humaine, notre condition sur la terre. On prie pour trouver une place au parking alors qu'il est bouché. On prie pour trouver un dépanneur quand on est en panne sur la route, c'est pas ça le but de l'Église. On prie quand on a un mal de tête ou un mal de dents pour être soigné, ou on prie pour être guéri du cancer, ou pour que le Seigneur guérisse quelqu'un d'autre, déjà un petit peu mieux. Enfin, comme si le cancer était une catastrophe. Humainement parlant, oui. Mais on ne vit pas à ce niveau-là. Le cancer ou d'autres maladies nous aident aussi à apprendre à passer de la vie terrestre à la vie céleste. Et notre regard est rectifié, notre regard est guéri à partir du moment où c'est cela que l'on voit. On se considère et on considère le monde d'une manière globale dans toute son histoire, c'est-à-dire dans son salut, dans sa vie éternelle, mais pas simplement pour les quelques années qu'il faut passer sur Terre. Apprenons à relire tout l'évangile et toutes les écritures avec ce regard nouveau, le regard de l'au-delà. Il faut apprendre à voir les choses comme Dieu les voit, d'une certaine manière. Et ne dites pas que c'est impossible. C'est possible. Des milliers et des millions ont vu autre chose. Ils en témoignent et ils nous le montrent. On fête aujourd'hui le prophète Ézéchiel. Il a eu des visions extraordinaires. Et on n'a pas tous la vocation d'avoir la même expérience, la même vision visuelle, si je puis dire. Et pourtant, on a beaucoup mieux. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu en image. Nous ne la voyons en réalité. Depuis que le Christ est descendu sur terre, ce n'est plus une image, c'est une réalité qui se présente à nous. Il faut adhérer à cette réalité-là. Et vous voulez voir cette réalité, vous voulez la voir avec vos yeux. Mais on a les icônes, on a l'Eucharistie pour nous y initier, pour nous y faire participer de fait. Et si vous voulez en avoir l'illustration, mais regardez autour de vous. Vous avez des icônes, vous avez des mosaïques, ça nous est rendu visible pour celui qui veut. Mais il faut chercher. Cette vision que le Christ vient, ou cette parole que le Christ vient renouveler, vient revivifier, c'est un don qu'il nous fait. Personne n'en est privé, mais chacun doit aussi donner du sien, doit aussi mettre son énergie pour essayer de le trouver, pas par lui-même, mais par l'Esprit Saint. C'est ça le but de toute notre conversion. Et c'est dans cette optique-là que s'inscrivent tout ce qu'on appelle nos passions et nos péchés, qui ne sont pas seulement des fautes morales, mais qui sont des occasions que nous prenons, que nous adoptons, de nous, de nous, de nous enfermer dans les choses humaines, de nous enfermer dans notre égoïsme et de ne pas regarder l'au-delà. Nous avons des peines, nous avons des épreuves. Et alors, dans ces épreuves-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons trouver comment Dieu se sert de ces épreuves-là et comment elles sont sa volonté ou comment il les permet. Donc, nous réjouir, être heureux de cela. Et si on n'en est pas heureux, si on s'enferme dans la souffrance, c'est parce qu'il y a un manque de foi, il y a en fait un rejet de Dieu. Je parle pas au point de vue moral, je parle plus profondément que la vie morale. Mais plus que jamais, en cette fin de temps, alors qu'on voit que tout se disloque autour de nous, il est important de retrouver cette vision, celle que vous trouvez, que nous trouvons, pardon, dans tout l'Évangile, mais notamment dans l'Apocalypse, où toutes ces choses-là ne sont pas sans raison, ne sont pas sans utilité. Dieu se sert de tout cela pour affermir son royaume, celui que l'on appelle la résolution dans le Notre Père, que ton royaume vienne, comme sur la terre, comme au ciel. Donc de tout ça, il faut se réjouir, pas parce que les autres, parce que le monde dit qu'il faut se réjouir, mais de fait, il faut voir plus loin que le bout de son nez ou le bout de sa vie, pour voir l'au-delà, non pas de son nez, mais l'au-delà de la vie, c'est-à-dire l'autre vie, celle qui a déjà commencé aujourd'hui, mais qui ne peut que s'accroître et que devons. Sans quoi, quand on se trouvera sur notre lit de mort, on sera tout étonné. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? C'est aujourd'hui qu'il faut nous préparer. Notre lit de mort est un lit de vie. Notre lit de mort, c'est une naissance, c'est un accouchement, c'est un transfert. C'est une dormition.